Bonjour à tous, bon lundi et bienvenue sur le mug numéro 91. Nous sommes le lundi 3 février 2020 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien chez vous. Il fait un peu moins froid, en tout cas sur Paris, je ne sais pas pour vous, mais c'est un petit peu plus agréable. Je ne ferai pas un mug en grelottant comme c'est arrivé la semaine dernière. Bonjour à tous, qu'est-ce qu'on me dit déjà dans la chatroom? Bien rempli déjà la chatroom, bon pied, bon oeil, un lundi matin. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite par les news du jour, et ça va donc être le Kawa. Bonjour, et puis j'ai déjà dit bonjour, je suis un petit peu à l'ouest hein, aujourd'hui, mais ça tout va très bien se passer. On va attaquer tout de suite les news, et on va commencer par effectivement un leak, hein. Les leaks avant annonce, c'est presque devenu du marketing pour certaines marques, on pourrait le dire si on était mauvaise langue, et on va l'être un petit peu. Il y a eu effectivement un gros leak autour du Galaxy Z, le prochain téléphone pliable de Samsung, qui, contrairement à son grand frère, le Fold, que j'avais testé sur la chaîne, va s'ouvrir comme un smartphone à clapet, néanmoins avec une vitre pleine, hein, pas de séparation entre les deux écrans. Hein, une image valant mille mots, je vais vous montrer un petit peu donc, cette vidéo qui a leaké. Si j'arrive à la lancer, ça va venir. Et on voit effectivement une main en train d'ouvrir ce téléphone à clapet. Donc on a une grande surface utile d'écran. Ça a l'air assez facile à refermer. Donc l'avantage de ce système, c'est d'avoir un petit carré finalement à la place d'un smartphone à mettre dans la poche. Est-ce que c'est un avantage décisif? Je sais pas. J'avoue que je suis très circonspect personnellement sur le procédé. Peut-être que dans la chatroom, vous êtes pas d'accord avec moi. Mais autant le Fold, une fois déplié, on a une mini tablette en main. Autant le Galaxy Z, une fois déplié, on a un smartphone. L'avantage est d'avoir un plus petit smartphone dans la poche. Ça oblige à faire un geste de plus. Bon, l'écran sera mieux protégé. Je sais pas. Il y a peut-être un public. Pas vraiment pour moi. Le même en Apple, je serais chaud. Pour moi, gain de place. Ouais, si vous me dites le gain de place est hyper important pour vous. Moi, ça serait plutôt ce que je vois comme avantage immédiat, c'est un écran bien protégé. Voilà, votre écran n'est jamais en contact avec vos clés ou quoi que ce soit. Donc, on peut se permettre effectivement des écrans un peu plus fragiles. Ça veut pas. Effectivement, vous avez peut-être quelque chose de plus petit dans la poche, mais pas forcément de moins lourd, ni de moins épais. Au contraire, ça risque d'être deux fois plus épais. Donc, je sais que moi, j'ai la très mauvaise habitude, en tout cas quand je suis à l'atelier et tout ça, de mettre mon smartphone dans ma poche arrière. J'évite de le faire quand je suis dans la rue et que j'y pense, parce que c'est une mauvaise habitude, hein, c'est un peu un pouce au crime. Je ne sais pas si un truc aussi épais, je le mettrais dans ma poche arrière. Donc, à voir. Ça risque d'être présenté le 11 février. Le 11 février, il y a une grande présentation Samsung à San Francisco. A priori, ils vont surtout annoncer le Galaxy S20. Mais il y aura peut-être un petit peu de place pour parler du Galaxy Z. Au moins, ça rentrera dans la poche. Les poches de pantalon des femmes est de plus en plus petites. C'est pas faux, effectivement. Non, je n'y serai pas à la présentation à San Francisco. Je n'ai point été convié. Et puis, de toute façon, je ne sais pas si j'y serais allé parce que San Francisco, c'est loin. Hein. Et les voyages, ça bouffe énormément de temps pour finalement pas tellement plus d'informations. et beaucoup de kérosène que vous consommez. Non, je ne sais pas, peut-être que j'y serais allé, mais finalement, de voir l'annonce d'un smartphone là-bas, dans des salles mal éclairées où tu ne peux rien filmer, où les journalistes se bousculent, et pouvoir traiter la sortie d'un smartphone à distance, comprenez mon hésitation. Hein, et contrairement à ce que vous croyez, quand on fait ce genre de voyage de presse, ce n'est pas des voyages d'agrément, parce qu'on n'a pas le temps de faire grand-chose d'autre. Si, bien sûr, on va poster des super images sur Instagram du bon temps qu'on est en train de passer là-bas. Pff, mon cul. Je sais le temps qu'on passe là-bas. oui, Pépé, il sera probablement, je sais pas, mais je pense que oui, il y sera. Allez, on continue dans les news, on va parler un peu de l'ONU. L'ONU qui aurait gardé sous silence une des plus grosses cyberattaques de son histoire. C'est une affaire assez grave, puisque effectivement, une attaque d'ampleur contre les serveurs de l'Organisation des Nations Unies, datée du 20 septembre, ça pointe les vulnérabilités exploitées, décrit les efforts pour mitiger l'attaque et indique qu'il évalue encore l'ampleur des dégâts. Donc c'est une cyberattaque complexe qui a eu lieu sur 3 bureaux de l'ONU, 2 situés à Genève et 1 à Vienne. Elle a démarré en juillet 2019 et n'a été repérée qu'un mois plus tard. Elle concerne 40 serveurs, dont 4 appartiennent au Haut Commissariat des Nations aux droits de l'homme. Les serveurs affectés contiennent une large variété de données, dont les informations personnelles des employés de l'institution. L'infrastructure touchée contient des informations sur les utilisateurs, les mots de passe, les commandes système et les pare-feux de sécurité. Les Nations Unies disposant d'un statut diplomatique particulier qui leur offre l'immunité contre toute forme de procédure légale, ils ne sont donc pas, comme n'importe quelle entreprise, obligés de déclarer les failles de sécurité ni d'informer les potentielles victimes. Aujourd'hui, avec la RGPD, hein, toute entreprise qui se fait hacker est obligée de communiquer là-dessus. Ce n'est pas le cas de l'ONU. Ce qui a été hacké est quand même particulièrement vulnérable. C'est des données vulnérables parce que c'est des documents internes, des bases de données, des emails, des informations commerciales et des données personnelles des membres de l'ONU et de leurs clients. Et vu l'activité de l'ONU, ces données pourraient avoir beaucoup, beaucoup de valeur. Les employés des bureaux de l'ONU à Genève travaillent notamment sur les discussions de paix en Syrie. Donc ça pourrait avoir une grosse valeur géopolitique, donc une grosse valeur monétaire. Il travaille également pour le Bureau de la coordination humanitaire ou encore pour la Commission économique de l'Europe. Quant au haut commissaire aux droits de l'homme, il travaille notamment avec les activistes souvent surveillés, menacés d'emprisonnement, voire de torture ou de mort par leur gouvernement. Donc si ces listes-là tombent dans les mains de gens malveillants, c'est extrêmement grave. Les données et les échanges avec l'ONU devrait être à un très haut niveau de protection. Et effectivement, ce n'est pas la première fois. En 2012, l'ONU avait déjà été épinglée par un audit pour son risque évalué comme inacceptable. Elle a depuis massivement investi dans la cybersécurité, mais n'a pas pu prévenir cette faille, une des plus grandes de son histoire. Donc, on va voir comment l'histoire se déroule, mais ce n'est pas un bon point pour l'ONU, là, pour le coup. Hein. Donc un ONU leak, effectivement, comme vous le dites dans la chatroom, ça pourrait être effectivement grave. Tant qu'ils n'essayent pas de déclencher les codes nucléaires, s'ils ont essayé... Bon, les codes nucléaires ne sont pas à l'ONU, mais enfin, tout ça peut avoir des conséquences graves, notamment avec ce qui se passe en Syrie, etc. C'est des informations quand même assez sensibles. Donc, pas bon. Allez, on continue. C'est Google. Google qui voudrait vous aider à créer votre propre clé de sécurité. Effectivement, on le sait, Google est le premier à vous inciter à une connexion en double étape, à renforcer votre sécurité informatique. Ils sont allés plus loin l'année dernière en mettant en avant les clés Titan, qui sont des clés physiques de protection de vos données qui permettent de sécuriser les comptes en ligne. Eh bien, il propose aujourd'hui un projet open source qui permettra à tout le monde de créer ses clés physiques. Le projet s'appelle OpenSK. Il s'agit d'une implémentation open source des clés de sécurité écrites avec le langage de programmation Rust qui supporte les standards FIDO U2F et FIDO 2. Ça va se matérialiser comme suit. vous aurez, je vous montre à ceux qui ont la vidéo, effectivement, ça va vous permettre, je pense avec une imprimante 3D et des petites cartes mères, des choses comme ça, de programmer vous-même des clés de sécurité, avoir votre propre clé de sécurité. Le but avoué est justement de faire progresser la recherche autour de ces clés de sécurité, de le mettre comme ça en open SK à la disponibilité de tout le monde. Ça permettra à certains scientifiques, à certains chercheurs plutôt, de s'emparer de la base et de faire évoluer pour encore plus de sécurité. Donc, qu'est-ce que vous... Rust, langage de Mozilla, d'accord. D'ailleurs, d'accord, merci de l'info, effectivement. Néon Issar. Moi, j'ai une clé USB avec un clavier numérique dessus. D'accord. Oui, effectivement, de mettre ça en open source, ça va permettre peut-être des choses innovantes, comme une souris qui serait aussi votre clé de sécurité, ou des choses comme ça. Donc, c'est plutôt une bonne initiative de la part de Google d'ouvrir un petit peu les concepts de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'ils ouvrent la sécurité, hein. Confondez pas. Ils vous permettent justement de faire des clés de sécurité. On enchaîne sans transition. Hein, coronavirus, effectivement, beaucoup d'infos là-dessus. Une spécifiquement qui nous intéresse dans la tech. C'est Apple qui va fermer tous ses stores en Chine et ses bureaux. L'épidémie de coronavirus a effectivement un impact concret dans le monde de la tech. Apple a pris la délicate décision de fermer tous ses Apple Store et tous ses bureaux en Chine jusqu'au 9 février, après consultation avec plusieurs experts et par excès de prudence. Effectivement, tout ce qui est store, c'est des endroits de brassage où des gens rentrent, des gens sortent, il y a des contacts. Donc, c'est des lieux très vulnérables dans les protections, protections contre la propagation effectivement des virus. Donc, c'est une décision, ils n'étaient pas obligés de le faire, hein, Apple, ils la prennent. Du coup, Apple a pris sévère à la bourse, je regardais ça samedi, je crois, parce qu'il y a des inquiétudes, effectivement, notamment aussi sur les fournisseurs d'Apple, avec les problèmes que risque de poser le coronavirus. Bon, on va dire que c'est des problèmes moins graves que le virus lui-même, mais c'est quand même des problèmes économiques qu'il peut y avoir à chaque, de toute façon, propagation d'un virus, ça crée des problèmes économiques et les rouages ne peuvent plus fonctionner comme avant. Oui, il n'y a pas que le titre d'Apple qui s'effondre, hein. Il y a une inquiétude générale sur les conséquences du coronavirus et d'autres, hein, d'ailleurs, virus sur l'ensemble de l'économie. Toutes nos économies étant étroitement imbriquées avec celles de la Chine. Moins 9% en Chine à la bourse. Ouais. Bah, c'est une traduction normale d'une inquiétude. L'incertitude, c'est là où il ne faut pas confondre. Ce n'est pas la certitude que les choses vont mal se passer avec le coronavirus qui fait chuter une bourse. C'est plutôt l'incertitude. À la limite, si on avait des données claires de où on allait et de ce qui allait arriver, la bourse prendrait peut-être moins cher parce que ça permet de prévoir, d'anticiper, etc. Ce que déteste la bourse, en général, c'est la notion d'incertitude. C'est le moment d'acheter des actions Apple. Elles sont très, très hautes. Hein. Même, je crois qu'elles ont pris moins 4%. C'est pas une chute. Hein. On n'est pas en crise. Et l'action Apple, elle vaut très, très cher. Ce qui veut dire qu'elle est bien. Mais ça veut dire que tu vas pas faire une grosse culbute si tu l'achètes maintenant. Enfin, à mon avis. Après, encore une fois, hein, chaque fois que je vous parle d'action et tout, faites bien ce que vous voulez. C'est votre argent. Je veux rien avoir à faire avec. Voilà. Pas sûr. Huawei va devenir un concurrent direct d'Apple prochainement. Perso, je parierais pas là-dessus. Je sais, attention à ce qu'on voudrait et ce qui risque d'arriver. Je sais que beaucoup m'ont dit « Oh là là, mais pourquoi tu dis ça sur Huawei? Ils vont y arriver, ils vont développer leur propre OS, etc. » Huawei a une force de frappe complètement incroyable et je n'ai aucun doute qu'ils vont devenir leader très très vite sur le marché. Après, c'est pas si facile que ça ce que Huawei vit en ce moment et de développer tout un OS pour conquérir des marchés autres que le marché chinois. Je sais que le marché chinois est déjà un marché planétaire de par son échelle. C'est pas aussi immédiat que ça. Et puis, de toute façon, Apple n'a jamais été le premier, ne cherche pas à l'être hein, sur les smartphones. Ils ont toujours été les premiers en rentabilité. Ça risque d'être en rentabilité. On va dire en bénéfice même. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour Huawei. C'est, alors, on part un peu dans l'économie, mais vendre énormément de smartphones, si vous faites des prix très bas, on ne va pas dire que c'est relativement facile, mais c'est une chose. Ensuite, faire beaucoup d'argent avec les smartphones, donc avoir des grosses marges, et quand même en vendre pas mal, ça, c'est presque un autre business. Aux infos ce matin, coronavirus, est-ce qu'on en fait trop? Bah, nous, on en parlait déjà vendredi, effectivement. Toute façon, il ne faut pas céder à l'hystérie, hein, ça ne sert à rien. Être vigilant, regarder ce qui se passe, croiser ces sources d'informations, parce que c'est le plus gros danger actuellement pour nous avec le coronavirus, c'est de se déclencher des paniques avec des articles qui sont juste là pour faire de la vue. Coronavirus, aujourd'hui, tout le monde clique dessus, tout le monde est plus ou moins en angoisse. Donc on pourrait écrire n'importe quoi, attention au sandwich, au poulet, au coronavirus, et bim, tu déclenches du clic. Avec le virus, on va bientôt avoir du mal à se fournir en nouveau smartphone. On va voir, tout dépend l'ampleur et surtout la durée effectivement de ce virus. On verra bien effectivement les conséquences que ça peut avoir sur la production. Et on continue et on reparle de Avast. Avast, je vous le disais la semaine dernière, qui a été toqué pour une exploitation a priori excessive des données personnelles. Comme je l'avais dit dans l'article la semaine dernière, Avast n'a pas forcément agi de mauvaise foi ni dans l'illégalité, puisque ils étaient relativement clairs avec le fait qu'ils exploitaient vos données pour vendre après des espaces publicitaires à travers leur filiale Jumpshot. Le bad buzz... Alors, en fait, le bad buzz vient d'où? C'est que Avast, c'est un antivirus. On n'a pas vraiment envie qu'un antivirus vende nos données de nos jours. Tout gratuit soit-il. C'est pas très compatible psychologiquement. Je pense que c'est pour ça que Avast en a pris plein la tronche, et je pense que c'est ce que réalise Andrej Vlek, le patron d'Avast, puisqu'il a décidé avec le commission de direction de stopper la collecte d'informations de Jumpshot, et même de dissoudre Jumpshot, et de mettre fin progressivement aux opérations de Jumpshot. La principale mission, ce qu'il nous dit, c'est que la principale mission d'Avast est d'assurer la sécurité des gens dans le monde entier. Je me rends compte que l'actualité récente de Jumpshot a peiné beaucoup d'entre vous et soulevé des questions justifiées, dont celle de la confiance. Le dirigeant affirme cependant qu'Avast et sa filiale ont toujours agi dans le respect des lois et se sont réjouis de l'arrivée du RGPD en Europe dès 2018. La protection des gens est la priorité absolue d'Avast. Cela doit se ressentir dans l'ensemble de nos activités, de nos produits. Tout autre comportement est inacceptable. Et pourtant, tu l'as accepté pendant longtemps, avant qu'on lève le lièvre. Mais bon, on va dire, tout le monde a le droit effectivement de changer son fusil d'épaule, surtout quand les choses vont mal. C'est vrai que on le voit, hein, que ce soit la vidéo que j'ai sortie vendredi, de plus en plus de gens prennent conscience effectivement, non pas de la vente de leurs data, parce que ça, et j'ai été le premier à propager un peu cette information fausse, ces boîtes ne vendent pas votre data a priori. À proprement parler plutôt. Ils vendent des statistiques à partir de votre data qui vont permettre d'affiner des espaces publicitaires. Ça n'a rien à voir avec Cambridge Analytica, où là, il y a vraiment eu du data qui est sorti de Facebook pour aller dans une boîte tierce. Toutes ces boîtes qui font de la collecte de données comme business model, parce que c'est un des business models d'Avast, c'est effectivement cette collecte de données à des fins marketing. C'est effectivement d'extrapoler du comportement à travers nos comportements et pouvoir revendre ces données comportementales aux régies publicitaires, en fait. Donc, mais voilà, on en est conscient. La RGPD, c'est pas sorti non plus de la cuisse de Jupiter. Hein, ça s'inscrit dans ce mouvement. Moi, personnellement, je suis du camp de ceux qui pensent et disent il ne faut surtout pas qu'on bloque trop la publicité sur ces services-là parce qu'ils vont disparaître. Et encore une fois, ma vidéo sur YouTube le montre bien. Si on coupe le robinet publicitaire de YouTube, YouTube s'effondre très vite et Google peut la vendre. Enfin, un truc qui coûte 13 milliards, d'après mes calculs à moi, à diffuser. Si vous avez plus de rentrée d'argent, vous l'arrêtez très très vite. Hein. Parce que c'est une grosse hémorragie quand même, 13 milliards. Même pour
Google. Pas dans les cordes.
Oui, mais tout n'est pas dans tes cordes. Et puis là, je parlais pas spécifiquement. T'inquiète pas. Toi, tu vas pas disparaître, on le sent bien. Excusez-moi, hein, j'ai Google qui réagit.
J'ai vu le jour en 2016, mais je fais comme si chaque jour était mon anniversaire. C'est l'excuse idéale pour reprendre une part de gâteau.
Ah, d'accord. Mm-hmm. Ouais. Hein, elle est un peu simplette hein, quand même. Hein. Elle a envie de participer, clairement. Les interventions de mes assistantes vont devenir mythiques, je sens. Elle parle comme ma belle-sœur. Est-ce que ta belle-sœur est un Google Assistant? C'est ça la question. Hein. Très bon concept de vie, je vais appliquer ça aussi. Ouais, je ne sais pas si Émilie Marie manger une part de gâteau tous les jours est une excellente idée. Hein. Là, pour le coup, je trouve pas que Google ait été super... c'est pas un très, très bon conseil, quoi. Elle écoute beaucoup, surtout, ouais. Ça, c'est clair. Lundi, assistante show, effectivement. Jérôme, entre Hugo et Karina, assistant, si tu ne devais en garder qu'un, bah, Google assistant, bien sûr. Mais non, je garderai Hugo. Ok, Hugo. Ça l'allume, ça me fait marrer. Allez, on continue, sinon je vais perdre le fil. Dans certaines villes américaines, eh ben, Apple se déplace pour réparer vos produits. Et ça, moi, personnellement, ça serait un rêve. Eh bien, Apple est en train de l'expérimenter. Dans certaines villes américaines, y compris Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, New York et San Francisco, quand vous avez un problème avec un appareil Apple, au lieu d'aller à l'Apple Store et apporter votre truc au Genius Bar, prendre rendez-vous, etc., on va venir directement... En tout cas, pour certaines réparations, venir réparer votre produit directement chez vous. Ils ont conclu des accords avec une entreprise qui s'appelle GoTech Service, qui est spécialisée effectivement dans le service à domicile. Ça peut être quand même vachement bien, notamment pour des gens qui n'ont pas forcément des facilités pour se déplacer. Alors bien évidemment, ça vous coûtera plus cher qu'une réparation traditionnelle, mais ça peut effectivement... Alors... Ça existe déjà pour les entreprises. Moi, j'avoue que c'est un truc, bon, c'est un petit peu cher pour ma boîte, la taille qu'elle a aujourd'hui, mais j'avoue que c'est un service que j'aimerais bien. Il est en plus très, très bien noté, le service Apple, en tout cas aux entreprises. Ils agissent très, très vite, ils te remplacent ton matos pendant la réparation, etc. Et c'est vrai que quand ton entreprise dépend de matériel informatique, le service après-vente est presque plus important que la machine. Donc en ça Apple l'a bien compris hein, pour pouvoir pénétrer dans les entreprises. Est-ce que pour les particuliers c'est pareil? Je pense notamment que Apple avec des choses comme l'iPad etc vend quand même beaucoup aux seniors, aux gens qui n'ont pas forcément la capacité de se déplacer. Donc c'est pas forcément une mauvaise idée. Reste à voir combien ça va coûter effectivement de le faire se déplacer. Il n'y a pas de service pour les pros chez Apple. Si, si, justement, Pierre-Yves, c'est ce que je viens de dire. Là, ça serait la même chose. Enfin, la même chose. Un service à domicile, mais pour les particuliers. Ma société personnelle, c'est-à-dire que je suis chef d'entreprise. C'est exactement ça sur la région personnelle. Là, je n'ai pas compris. Ça doit être une autre discussion. Il faut que j'arrête de lire la chatroom. Vous me sortez des articles et après j'ai du mal à reboucler. On continue et on termine avant de passer à la tartine. Un article assez rigolo. Souvenez-vous, le smartphone Hydrogen One. un des plus gros flops hein, en smartphone, lancé par la marque Red, connue par ses caméras haut de gamme cinéma et de youtubeurs fortunés ou fanatiques. Red avait fait une tentative de sortie d'un smartphone avec des promesses de haute capacité caméra avec l'Hydrogen One. Ça a été un des pires lancements et un des pires soufflés dégonflés dans l'histoire des smartphones. Et pourtant, hasard de l'histoire, amusant, si on peut dire, l'Hydrogen One va se retrouver en placement produit, comme vous le montre cette image, va se retrouver, vous voyez, hein, là, hop, va se retrouver en placement dans le nouveau Fast and Furious, le Fast 9, puisque effectivement un contrat de placement produit avait été conclu en avance. Le tournage a eu lieu il y a plusieurs mois. L'Hydrogen One n'avait pas encore été annulé. Ils avaient dû garder cette opération de marketing d'être en placement produit dans le prochain film. Et ça ne manque pas. On trouve donc des téléphones qui ne sont maintenant plus en vente dans le film. Ce qui rend le film directement ringard. Parce que, ou alors, effectivement, on avance sur son temps. Peut-être que l'Hydrogen One va devenir une espèce de pièce d'antiquité hyper recherchée. C'est déjà arrivé hein, à les consoles pimpin, pin-pin chez Apple. Un des flops d'Apple, c'est aujourd'hui des produits assez recherchés. Puisqu'il y en a très peu qui sont sortis et que c'est représentatif aussi d'une certaine histoire d'Apple. Fast and Furious 18 soon. C'est le 9, c'est pas le 19. Je sais pas, j'avoue que je suis pas un grand fan de Fast and Furious. Et notre Pablo Escobar phone dans tout ça. Ah, c'est vrai, on n'en entend plus trop parler. Il devait faire le show au CES. On ne sait pas ce qui s'est passé. Oui. C'est devenu un running gag, les Fast and Furious, non ? Écoute, je sais qu'il y a des fans. Hein. S'ils sortent les films, c'est qu'il doit y avoir un public. Hein. Oui, mais tu as des fans d'Apple. Je crois que Red One n'a pas de fans aussi importants. Ouh, détrompe-toi. Des fans de Red, alors c'est en beaucoup plus petite proportion que Apple. Mais tu as des fanatiques de Red, hein, de la marque Red, qui ne jurent que par Red. Hein. À ce rythme, on va aller vers le 18 et même au plus bientôt. Écoute, peut-être, hein, peut-être que le Fast and Furious va devenir le nouveau James Bond. Une série qui ne s'arrêtera jamais. Vivement un crossover entre Fast and Furious et Transformers. Petit coucou à Hard Disk. Hard Disk est dans la chatroom. Salut Hard Disk. J'ai tenté de regarder en me disant c'est pas parce que c'est populaire que tout le monde se moque que c'est mauvais. Eh ben j'ai pas aimé. Attention, on va y attention ce type de comportement de merdologue, de regarder de la merde pour confirmer que c'est de la merde, ne fait que pulluler, faire pulluler la merde, parce qu'il y a une proportion de merde audiovisuelle qui ne survit que parce que les gens regardent pour bien confirmer que c'est de la merde en fait. J'en suis persuadé. Et sur YouTube c'est pareil. Il y a des émissions qui existent pour qu'on les critique. Et c'est ça qui leur fait faire des grosses audiences. Donc ne devenez pas merdologue. Il n'y a pas que Blanche Gardin qui vous le dit. Je vais regarder. Mais il n'est pas là, Hard Disk. Qu'est-ce que vous racontez dans le chatroom? J'arrive pas à vous suivre. Là. Jérôme, j'ai le même mug Dark Vador. Qui m'a coûté un brain. D'accord. Écoute, nous, on nous l'a offert. Hein. C'est l'avantage de faire une émission qui s'appelle Le Mug. C'est que certains d'entre vous sont super gentils et nous envoient des mugs. Donc ça, c'est cool. Mm. C'est le cas de ton mug, non? Une émission qui existe que pour être critiquée. Non, mais certains auraient tout à fait le droit de penser ça de mon émission et je ne m'en offusquerai pas. Effectivement, il y a des gens. Mais d'ailleurs, il y a au moins entre 10 et 20 d'entre vous qui détestent systématiquement le mug, qui viennent tous les matins poser leur thumbs down. Donc, bah, quelque part, ils font exister ces 20 personnes l'émission aussi. Hein. Moi, je ne veux pas me plaindre. Hein. Si Apple disparaît, je devrais manger que des oranges. Allez, on continue. Là, j'ai envie d'être distrait, en fait. Hein, ça se sent. Hein. On va passer à la tartine, mais avant, on va parler de notre sponsor. Je vais prendre un petit peu de temps sur le sponsor parce que je pense qu'au vu des news qu'on a eues cette semaine, je vais vous dire deux, trois petites choses par rapport à notre sponsor Shadow PC. Shadow PC, c'est effectivement des PC de puissance gamer sur le cloud. Vous pouvez, avec le mug Nowtech, gagner un mois de Shadow PC toutes les semaines. Pour jouer, c'est fort simple. Sur Twitter, vous suivez le Twitter Shadow_France et vous composez un petit tweet dans lequel vous nous dites pourquoi vous avez envie de gagner un Shadow PC, pour jouer à quel jeu, pour utiliser telle ou telle app sur PC. Dedans, c'est très important que vous mettiez le hashtag le mug Nowtech et le hashtag Shadow PC. C'est grâce à ces deux hashtags que moi je fais mon tirage au sort le vendredi et que je désigne un gagnant effectivement le vendredi. Donc si vous ne mettez pas ces hashtags, vous ne risquez pas de gagner. Donc ça, c'est important. Là où on va parler un petit peu de Shadow, effectivement, Shadow, on ne l'a pas annoncé en news, mais Shadow a annoncé un ensemble de nouvelles. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Il y en a des pas bonnes du tout. Commençons par les pas bonnes du tout. Hein. Vaut mieux manger les haricots avant le steak. Enfin bon, après, il y a des gens qui adorent les haricots. Oubliez mon analogie. Les pas bonnes, c'est qu'il va y avoir un retard et a priori conséquent sur les offres Ultra et Infinite. Donc, c'était des PC plus haut de gamme que l'offre Boost. Ces retards, bon, ils ont donné un certain nombre d'explications. Ce que j'ai à vous dire, c'est que normalement, je ne peux pas encore vous le garantir parce que j'attends le OK de mes contacts chez Shadow. Vendredi prochain, on aura en invité un responsable technique de chez Shadow pour expliquer un certain nombre de choses et pour répondre à vos questions. Donc voilà, a priori dans l'émission, je dis bien a priori, on est en discussion. Ils doivent me donner le top. On aura physiquement ici quelqu'un de chez Shadow, donc vous pourrez poser aussi des questions sur cette histoire. Dans les news un peu meilleures, c'est que toutes les offres Boost seront servies et des gens qui ont pris Ultra et Infinite comme premier Shadow auront au moins la possibilité de prendre un Boost. Donc l'offre de base, donc de commencer à profiter de la plateforme Shadow, c'est juste les PC de grande puissance Ultra et Infinite qui vont arriver plus tard. regardez effectivement les offres que vous avez prises, ne paniquez pas, ils vont donner des informations, je crois le 12 février, des informations plus précises sur ce qu'on pourra prendre, ce qu'on pourra pas prendre dans les offres. Ce retard s'explique, en tout cas c'est l'explication que donne Shadow, par une pénurie actuelle de pièces pour serveurs et une flambée des prix qui ferait que si montaient les Ultra et les Infinite aujourd'hui, ça coûterait trop cher de les sortir aujourd'hui. On attend plus de précisions. Voilà, mais si vous voulez poser des questions à Shadow, rendez-vous vendredi sur la chaîne principale dans le live édition spéciale. A priori, j'aurai quelqu'un de chez Shadow et si j'ai personne de chez Shadow, je ferai peut-être un corn fac spécial Shadow pour vous répondre de ce que je sais. C'est le 19 qu'il y aura des annonces, d'accord, j'ai dit le 12, ça sera le 19. La communication officielle pour les clients sera le 19 février, pas le 12. D'accord, merci Seb. Merci de cette info. Pour les questions, Mathis, posez-les-moi en fin d'émission parce que là, il faut qu'on continue. On va continuer avec la tartine. Et la tartine, aujourd'hui, je vous propose de parler de vélo à assistance électrique. Je vais vous parler des aides à l'achat en 2020 pour les vélos à assistance électrique, comment ça se passe. Mais surtout, vous interrogez-vous sur la chatroom. Est-ce que vous avez l'intention en 2020 de changer votre motricité, vos déplacements? On va en parler tous ensemble et c'est tout de suite dans la tartine. Donc la tartine d'aujourd'hui, on va parler, je me suis dit on va joindre l'utile à l'agréable plutôt que de parler à bâton rompu de la mobilité, notamment de la mobilité électrique. Je vais d'abord vous lire un petit peu comment bénéficier effectivement d'aide pour l'achat d'un vélo électrique, d'un VAE, comme on dit, vélo à assistance électrique. Alors, on sait que les ventes ont explosé en 2017 justement grâce à une aide. Il y avait une prime nationale qui était octroyée à quiconque achetait un vélo de ce type entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2018. Cette prime a été très très populaire. 250 000 en ont bénéficié. Ça a coûté 50 millions d'euros à l'État au lieu des 30 millions prévus initialement. Mais bon, ça reste quand même une belle opération. Ça a mis un bon coup de pédalier, on va dire, au vélo à assistance électrique. Et depuis, effectivement, l'offre gouvernementale a été largement modifiée et limitée. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu le point comment vous pouvez obtenir des aides dans l'achat d'un VAE en France. À savoir que quand même, les VAE, c'est des produits chers. Aujourd'hui, ça va entre, je crois, 800, 2000 euros, voire plus. Même, oui, bien plus que 2000 euros. J'avais un truc sur le prix moyen. Mais je crois qu'on n'est pas très loin de 1000 euros, hein, le prix moyen. Donc, c'est quand même, effectivement, des vélos très, très chers, bardés de technologie. Alors, l'aide de l'État, effectivement, elle est bien moins accessible. Aujourd'hui, pour bénéficier d'une aide d'État directe, complément d'une autre... Alors, déjà, il faut deux choses. Il faut que, pour l'aide de l'État, il faut que ça vienne en complément d'une autre aide. Donc, il faut que vous décrochiez une aide locale ou régionale pour avoir droit à un complément d'aide nationale. Et effectivement, les critères d'attribution ne changent pas. Le bonus ne concerne que les vélos à assistance électrique achetés neufs. Et ceux-ci ne doivent pas être alimentés par une batterie au plomb, ce qui est extrêmement rare maintenant. La quasi-totalité est désormais au lithium. Le bénéficiaire s'engage par ailleurs à ne pas revendre son vélo avant un an. Donc vous vous engagez effectivement. Le bonus de l'État peut désormais au mieux doubler l'aide initiale dans la limite de 200 euros pour les deux aides cumulées et d'un montant total n'excédant pas 20% du prix d'achat du vélo. Donc c'est assez limité. Alors les aides locales, je ne vais pas toutes vous les faire. L'article, vous le trouverez chez les numériques qui vous énumère ville par ville. Je vais faire quelques grandes villes et après vous irez voir si votre ville, elle, a une aide pour l'achat de vélos à assistance électrique. Paris est assez généreux, même d'une grande... L'Île-de-France, puisque les subventions peuvent atteindre 500 euros pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Et 600 euros si vous achetez un vélo cargo, vous savez, pour mettre la famille, etc., avec un réservoir... un réceptacle de trucs devant. C'est limité bien sûr à 50% du prix d'achat du véhicule neuf. Cette aide est cumulable avec une aide locale, mais toujours avec le même plafond pour un total des aides. Autant dire qu'avec un tel montant, elle se suffit à elle-même. Voilà, elle peut se cumuler, mais comme il y a un plafond, hein, il y a un moment où vous ne pouvez pas tout cumuler non plus. Alors, je prends par exemple Marseille aussi. Marseille s'est plafonné à 400 euros et vous profitez d'un remboursement de 25 euros du prix du vélo électrique, mais qui est donc plafonné à 400 euros. C'est le département qui, donc c'est le département des Bouches-du-Rhône, qui le propose à Lyon. Et il y a une aide de 100 euros apportée aux habitants du Grand Lyon. Elle se destine pas qu'aux adultes, elle s'ouvre aussi aux adolescents des 16 ans. Elle concerne les vélos assistance électrique homologués, les vélos pliants, les vélos cargo ou familiaux, qu'ils soient neufs ou d'occasion, c'est pas mal, du moment qu'ils sont achetés chez un commerçant professionnel ou un atelier associatif d'auto-réparation de la métropole lyonnaise. Donc voilà pour les Lyonnais. À Toulouse, une aide de 200 euros est attribuée sous condition de ressources. Donc il faut prouver que vous avez des problèmes de ressources si vous avez un revenu fiscal inférieur à 28 800 euros. À Nice, ça propose un remboursement de 25% du prix du vélo assistance électrique limité à 200 euros par foyer. Donc voilà, selon les villes où vous êtes, il y a des grandes Strasbourg, c'est pas d'aide à proprement parler à Strasbourg, mais la ville de Strasbourg met en avant une offre Véloptimiste, qui est en fait un programme de financement. Ah oui, ils font ça aussi sur Paris, de vélo assistance électrique à 2 euros par jour. Vous le payez un petit peu petit à petit, lié à un contrat d'entretien, et ce durant 3 ans. Chaque revendeur partenaire est libre de proposer les modèles de son choix. Donc c'est un peu une offre d'accessibilité assez intéressante. Voilà, si votre ville, j'ai pas cité toutes les villes, ça serait trop long, tout est dans l'article des numériques. Ça risque d'être le gros boom encore des vélos à assistance électrique. Moi, pour la première fois, j'en ai utilisé un quand on était à Pornic. J'ai trouvé ça très agréable. Si j'avais pas des problèmes de garage à Paris, je me laisserais bien tenter. Même si j'avoue que rouler en vélo à Paris, c'est pas le truc le plus safe du monde. Mais j'irais bien faire des escapades hors de Paris, parce que là, contrairement à ce qu'on croit, la campagne est pas si loin de Paris. On pourrait y accéder en vélo, j'ai regardé. Donc voilà, si j'arrive à résoudre mon équation de garage de vélo, parce que ça serait chiant, ou alors il faudrait que je les gare à l'atelier le week-end et chez moi le semaine. Ouais. Bon, c'est pas simple, parce que dans la rue à Paris, ça craint. Mais moi, je sais que ça me tente bien. Alors justement, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez des envies, des velléités de remplacer vos moyens de vous déplacer à partir de 2020? Est-ce que vous commencez à être tenté par l'électrique? Quels sont vos projets? Moi, je sens que je vais finir 2020 en fauteuil. D'accord, bah écoute, désolé pour toi, Sacha. Vélo pliable, je les trouve... Enfin, ça ne me tente pas, les vélos pliables, personnellement. Vélib, d'accord, pour toi, Eric. Je me déplace en trottinette, Ninebot ES4 avec protection casque et gants. Faut être vraiment alerte à tout moment, surtout par rapport au 3 et au freinage. D'accord. Moi, c'est Giroroux depuis 6 mois. D'accord, je sais que la Giroroux a un certain succès, effectivement. Certainement un scooter électrique pour Gérard. Il y a plus de cyclistes morts à la campagne qu'à la ville. Ça ne m'étonne pas non plus, ça. Moi, j'ai une belle Opel Cabriolet avec un pare-buffle pour les vélos électriques. Super, half-life. C'est pas safe et j'habite dans le Nord. Prendre la pluie 4 jours sur 7, non merci. On peut comprendre aussi, ouais. Je suis vélo classique sur Paris depuis 3 ans, mais si un jour je déménage en banlieue, je réfléchirai à la moto électrique, d'accord. Moi, j'ai acheté un VAE pour aller travailler, pour remplacer ma voiture. Et du coup, je l'utilise aussi pour les balades en famille. C'est très vite rentabilisé, selon la voiture aussi. D'accord. Le problème reste les prix parce que c'est très cher. Mais justement, c'est pour ça que je parlais d'offres au financement. Il y a des pliables électriques comme les Brompton qui ont l'air pas mal, mais ça coûte 3000 euros. Oui, il y a ça aussi, hein, effectivement, Paladin Bleu. Le prix, de toute façon, le prix de ces vélos, c'est assez fou, quoi. Donc, moi qui ai la chance d'être un influenceur, je me demande si je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je trouve un moyen pour les garer et ensuite que j'approche des marques de vélos électriques. Je dis, je pourrais vous faire des petits tests. Comme ça, c'est des vélos gratos. En tout cas, on m'en prête. Après, à moi de m'en faire prêter suffisamment pour en avoir toujours. Malin. Ouais, mais bon, il va falloir. Et puis, alors, faire des vidéos de vélos. C'est pas simple, hein. En prod, C'est du lourd en prod. Hein. Si on veut faire quelque chose de chouette où on me voit voler... on me voit voler des vélos. où on me voit faire du vélo et tout, ça veut dire des caméras embarquées sur un autre vélo. Ouais, ça coûterait très cher en prod. Donc, pas forcément une bonne idée. Avec un bon dégraissant pour nettoyer le pare-brise. Ouais. Est-ce que c'est lourd pour le monter? Oui, c'est des vélos lourds hein, quand même, hein, en règle générale. Passer au vélo depuis un an et demi à Lille, emmerdé 10 fois max par la pluie, ça manque juste de lieu de réparation. D'accord, bon à savoir. C'est le prix d'une petite 125. Oui, après, il y a l'aspect écologique dont on n'a pas parlé. Demande un partenariat. En fait, je vous parle des partenariats comme si c'était aussi facile que ça, que j'appelais les marques et les marques n'attendaient qu'une chose, c'est que des influenceurs les appellent pour leur filer des vélos. Non, ça ne marche pas comme ça. On m'a déjà proposé hein, des vélos à tester. Monte une équipe cycliste Naotech. Ouais, mais il faut la payer l'équipe, Olivier. Si tu veux, je suis technicien cycle chez GoSport. Ah, c'est intéressant, Maël. Si on utilise un VAE pour aller travailler, c'est rentable. Ça me revient à 0,15 centimes au kilomètre. D'accord. J'ai la chance de pouvoir me déplacer à pied la plupart du temps. Moi, je pratique énormément la marche à pied hein, maintenant. Hein. À Paris, je m'aperçois, je métro, je prends pas la carte parce que je prends vraiment quand il faut que je prenne le métro que je suis obligé. Sinon, je marche et des marches de 40-50 minutes, ça me fait pas peur, quoi. Maintenant, dans Paris. C'est un bon moyen pour préparer des vidéos aussi, une bonne marche. Donc, j'hésite pas à le faire, quoi. Ah non, Jérôme, pas de vol de vélo au Sacré-Cœur, hein, c'est clair. Scooter électrique, ouais. Le vélo, faut le tester. C'est un problème pour Jérôme qui n'est pas de toute première fraîcheur. Et je t'emmerde un peu, Half-Life, avec ma première fraîcheur. Voilà, hein, je suis pas poli. Mais tu m'insultes à moitié, passif-agressif. Et ben, bim, moi, c'est agressif derrière. Ah, et il fallait pas me chercher. Hein. Justement, je suis à un âge où c'est parfait, les vélos à assistance électrique. Actuellement, je vis en ville, mais bosse à la campagne, donc pas le choix en voiture, mais d'entour, j'ai pas trottinette tout le temps, même pour les courses. D'accord. J'ai le bus presque gratuit, donc pas pour moi, ok. Moi, je m'orienterais plutôt vers un skate électrique, d'accord. Némésis, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un boomer? Ça va être ma croisade 2020. Qu'est-ce qu'un boomer, la chatroom? Est-ce que quelqu'un a la définition d'un boomer? Avant qu'on me balance du hockey boomer. Mon beau-père, 70 ans, vient d'en acheter un aussi parce qu'il ne peut plus... Bon, moi, mon père, qui a bientôt 80, mais c'est un ultra gros sportif, lui, il continue à faire des montées de l'Alpe d'Huez en vélo. Donc, lui, il n'y a pas trop de problème hein, pour l'instant. Moi, je ne monterai jamais à l'Alpe d'Huez avec un vélo. Un sous-marin stratégique lancé dans le jeu. Voilà. C'est les personnes nées entre 1946 et 1966. Donc, je ne suis pas un boomer, que ça soit bien dit. Non, boomer, ça ne veut pas dire un has-been. C'est un truc bien spécifique. C'est un baby boomer. C'est une génération, en fait. C'est ceux qui sont nés juste après la guerre. 66, ça me paraît beaucoup. Mais après, il y a peut-être des... Non, c'est pas post-boomer. Moi, je suis génération X, d'après les définitions de génération. Génération X est née, je crois, entre 67 et je sais plus quand, dans les 80. Salut Caribou. Ça veut juste dire né après la guerre, sinon on est tous beaux. Ouais, c'est bon, après, je sais que ça va quand même devenir ça. En fait, le problème chez les plus jeunes maintenant, c'est que boomer est en train de devenir un synonyme de vieux. Or, je trouve que c'est con parce que je pense que c'est intéressant que ça garde son étiquette générationnelle. Parce que je pense qu'il y a un certain type de comportement de cette génération boomer. C'est pas pour rien qu'on définit les générations. C'est parce que c'est des générations qui ont vécu certaines choses et qui peuvent expliquer d'ailleurs certains comportements qu'elles ont aujourd'hui. C'est la génération née après la guerre, les gens ont commencé à refaire des enfants. Oui, c'est ça, les baby boomers. Ça fait référence au pic de naissance après la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Oui, mais je sais hein, que l'expression va au-delà de la génération. Ça n'empêche que, voilà, on peut essayer de remettre les choses sur les rails. Ah non, mais il n'y a pas de honte à être un boomer. Après, c'est tout le truc. C'est qu'en fait, OK boomer vient d'un certain type de comportement de certains boomers qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui ont une vision de la société qui semble détachée de la préoccupation des générations plus jeunes. Voilà, c'est ça que veut dire OK boomer. Pourquoi la génération X ? Alors ça, ne me demande pas d'où viennent les noms. Hein. Du côté de ma mère et son 5 sœurs, de mon père. Et on est complètement sorti du sujet, hein. Je ne sais pas si vous en rendez compte. On était en train de parler de vélo électrique, donc on va arrêter sur les boomers. Je sais, c'est de ma faute si on est sorti du sujet. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas fini avec les vélos? On en reparlera de toute façon. Moi, je suis très intéressé de voir comment va évoluer le marché de la mobilité, notamment la mobilité électrique et les nouveaux moyens de locomotion. Donc, on en reparlera. Je vous propose qu'on passe à la dernière rubrique de l'émission. Il est temps d'ailleurs, puisqu'il est 8h51. Donc, on va passer tout de suite au CornFac. Vous me posez des questions, je tente d'y répondre. Et c'est les camps de fac. Vous me posez des questions. J'ai vu que certains avaient commencé à me poser des questions. Il suffit de les reposer. Pas de questions platinium ce matin. Effectivement, si vous avez des questions à poser, c'est maintenant. Twitter ou boomer? Ça n'a rien à voir, Luc. La génération X, c'est entre 1961 et 1981. D'accord. Ah, tu vois, donc il y a un chevauchement. Si certains disent boomer, ça va jusqu'en 66. Ça me paraît tard, 66, pour les boomers. Hein. Pour moi, boomer, c'est vraiment des gens... ça ne devrait pas aller plus loin que les années 50, hein, dans les dates de naissance. C'est vraiment l'après-guerre. À mon avis, ça doit venir de baby boom. Oui, ça vient du baby boom. Si vous vous souvenez pendant vos cours au lycée, quand on apprenait la pyramide des âges et qu'on voit les creux de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale et des pics de natalité qui ont suivi, et le deuxième pic, effectivement, de la Deuxième Guerre mondiale, on a appelé ça le baby boom. C'est en partie dû à la fin de la guerre, le retour des soldats, mais plus que le retour des soldats, un certain optimisme après-guerre qui a fait qu'on a fait plus d'enfants. On le sait, l'être humain fait plus d'enfants quand les situations économiques sont bonnes que quand elles sont mauvaises. C'est humain. L'iPhone S2, tu y crois? Oui, je pense qu'Apple va faire un coup comme ça. Il s'appellera peut-être pas forcément le SE2, mais on verra. Mon père est de 1950, c'est ça. Oui, bah ton père, moi, mon père est un boomer aussi. Vous comptez rester en 16-9e ou changer à l'avenir? Bah on est, en tout cas, sur nos vidéos principales, on n'est plus exactement en 16-9e. On a un autre ratio. Pourtant, les pauvres font beaucoup d'enfants, beaucoup plus d'enfants que les riches. Pour des raisons économiques aussi, hein, dans des pays très pauvres, l'enfant permet aussi de travailler, enfin de générer de la richesse. Donc, est vu aussi comme une richesse économique. Ok, d'après Wikipédia, c'est entre 1946 et 1964, les boomers, d'accord. Avez-vous vu qu'Instagram limite la lecture? Si on n'est pas connecté, on ne peut plus scroller comme avant. Ah, j'avais pas vu ça, effectivement. D'accord, c'est 1964 pour Wikipédia, ok. Et puis, moins d'accès à la contraception. Effectivement, ça, c'est des facteurs importants. Le manque de contrôle, c'est aussi des différences culturelles. L'équipe de France de rugby va-t-elle gagner le tournoi cette année? C'est fort probable. J'en sais rien, moi. Puis alors, le rugby, si, je crois que j'ai regardé quand la France était en finale du truc du monde, là. Je crois que c'est la seule fois que j'ai regardé du rugby. Je suis pas du tout rugby. J'en ai fait un peu quand j'étais jeune. Mais alors, regarder le rugby, c'est pas trop mon truc. Regarder les sports, à part le hockey qui me fascine. Je regarde très très... Et encore le hockey, c'est vraiment quand je tombe dessus. L'escrime aussi, parce que j'en ai fait pas mal quand j'étais plus jeune et que j'ai toujours adoré l'escrime. Mais à part ça, je regarde pas de sport. Mais aux Jeux Olympiques, ouais, je regarde quand même l'escrime, enfin les matchs de fin en tout cas. Jérôme, un avis sur la série Star Trek Picard? Écoute, elle est fraîche. Ce n'est pas un congelé. Allez, on évacue toutes les blagues sur Picard. Alors, deux trucs très intéressants à dire sur Picard. La série commence bien et c'est du vrai Star Trek. J'ai bien aimé Discovery, mais pour moi, Discovery n'est pas un Star Trek classique dans le sens où, pour moi, un bon Star Trek, c'est une série qui te force qui te pousse à réfléchir à des choses de ton présent en les extrapolant dans le futur. Et c'est généralement très bavard, avec assez peu d'action en fait, voilà, pour caricaturer des bons épisodes qu'aiment les trekkies ou les trekkers plutôt, c'est des épisodes de 2 heures sur les négociations diplomatiques entre les Vulcains et les Klingons, quoi. Ça, c'est typique des fans de Star Trek. C'est un peu ce qu'on retrouve dans Picard, donc pour moi, ça sent bon. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers épisodes, mais alors le truc qui me fait le plus plaisir, c'est que Marion... Du coup, je lui avais fait une liste des 25 épisodes à regarder dans Star Trek Next Generation pour comprendre qui était Picard. Mais elle s'est pas arrêtée à la liste, là. Elle est en train de se faire les épisodes, même les plus ridicules, parce qu'il y a des épisodes complètement ridicules. On en a regardé un hier. Ça a très mal vieilli, hein, les effets spéciaux, etc. Mais comme elle dit avec justesse, on s'en fout des effets spéciaux. Les dynamiques de cet équipage sont super intéressants et les personnages sont hyper intéressants. Donc, je la conseille. Je la conseille. Gérer la chatroom, c'est pas du sport. Ah si, ça c'est clair que c'est un sport national. Hein. Va se mettre à regarder le Tour de France. Alors ça, regarder le vélo, c'est un truc, ça me dépasse complètement. Quand tu as bu quelques Ricard, ça donne le même effet. What? On parle de Picard, pas de Ricard. J'ai un collègue au bureau, c'est le sosie du commandant Picard. Ah! C'est plutôt un bel homme. Hein. Bon, là, c'est sûr qu'il a quand même... je crois qu'il arrive à 80 ans, hein, l'acteur, hein, si je ne me trompe pas. C'est un beau vieillard, quand même. J'aimerais bien vieillir comme ça. Hein. The Orville, ouais, c'est très très bien aussi. Hein. Sur The Witcher, on a déjà donné notre avis. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Un vrai épisode de Star Trek, c'est un problème technique, une solution pseudo-scientifique, what the fuck, mais on n'aura qu'un seul essai, wesh, répète. Je peux pas te laisser dire ça, Oleg, mais t'as raison pour une grande partie. Mais il n'y a pas que ça. Star Trek Next Generation, c'est beaucoup. Ah, nous sommes à côté d'une planète où ils font un truc pas bien. Oui, mais capitaine, il y a la prime directive, on n'a pas le droit d'intervenir. Ah là là, merde, bon, téléportons-nous quand même, restons discrets. Ah merde, on s'est fait repérer. Bon, bah, il faut qu'on fasse une entorse à la prime directive. Et Picard qui va, ah non, non, on a une autre solution, et boum, il se bat. Il a 79 ans, ouais. Est-ce que je regarde la série Afterlife ? Non, j'aime beaucoup Ricky Gervais, mais j'ai pas encore regardé la série Afterlife. Mi-temps du Super Bowl, ils ont annoncé les séries Marvel sur Disney+. Ah. Que penses-tu des plans et photos de drones pour un film historique ? Oula, ah oui, tu veux dire, on tombe dans le débat, c'est un film historique, donc c'est pas bien de le filmer en drone parce que ça fait pas historique, mais en même temps de le filmer avec une caméra non plus. C'est ça ta question ou... On va rester jusqu'à 9h05. As-tu vu l'interview de François Cheng la semaine dernière ? C'est qui, François Cheng ? Non, je ne sais pas qui c'est. Bon, alors, qui va se faire les Ghibli sur Netflix ? Je sais qu'il y en a une qui est prête. Hein. Comme quoi, le froid, ça conserve. Ok, il fallait la faire. Le capitaine au frigo, au congélateur, le capitaine Picard. Je suis curieux de ce que tu voulais dire, Jeff, avec des plans et photos de drones pour un film historique. Est-ce que tu veux dire que ça serait bien pour un film historique ou que ça enlève le côté historique au film historique ? Chef de sponsor de l'émission, j'ai pas la réponse. Bon, je vais devoir vous quitter là. D'accord, la poésie de François Cheng.
Puis-je vous aider ?
Non, bah ça va, en rien, merci Siri. Tu as parlé du retard de Shadow et de leur com pas terrible. Oui, on en a parlé vendredi, je risque d'avoir quelqu'un de chez Shadow sur le plateau, j'adore dire le plateau de l'émission, sur le plateau de l'émission en direct. Nous aurons peut-être, c'est pas encore confirmé, quelqu'un de chez Shadow à qui vous pourrez poser des questions directement, qu'on va passer au grill. T'es très poli avec Siri. Oui, j'essaie d'avoir des réductions chez Apple. Que dirait-on si Stadia avait des soucis comme Shadow ? Alors là, Vincent, Stadia, ils ont des soucis pas très loin de ceux de chez Shadow. Hein. Là, on pourrait en parler, mais dans le genre, on promet des trucs et ça n'arrive pas. Parce que c'est le problème. Hein. Shadow, ils sont... Moi, je dis, le problème, c'est qu'ils sont un peu précoces, dans le sens où ça part un peu vite. Mais ils ont envie de faire plaisir, mais un peu trop envie. Et du coup, ils créent des frustrations parce qu'ils annoncent un peu vite les choses et ils n'y arrivent pas dans les temps. Et ouais, ça crée une frustration. Le grille-pain, nouvelle rubrique du mug, pas mal. Une vraie prod historique, alors elle serait floue vu la proportion de population myope et stigmate qui n'était pas corrigé, c'est clair. C'est clair. Allez, je vous laisse là. On se retrouve demain matin à 8h pour un prochain mug. Je vous souhaite une excellente journée. Hein. Travaillez bien, soyez bons, soyez forts. Et à demain. Ciao tout le monde.